France Culture.
Talmudique. David Lemler, bonjour.
Bonjour.
David Lemler, c'est un grand plaisir de vous retrouver cette semaine pour ouvrir l'année et poursuivre notre conversation autour de votre ouvrage « L'invention du judaïsme » qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Je rappelle que vous êtes normalien, docteur en philosophie et maître de conférence à l'UFR d'études arabes et hébraïques de Sorbonne Université et spécialiste de Maïmonide et des rapports entre religion et philosophie. Nous avons vu la semaine dernière comment, dans la période talmudique et la période médiévale, s'est inventé et réinventé le judaïsme, conduisant à mettre en place un système de croyances au contact de la sphère chrétienne et arabo-musulmane, avec pour grand et principal architecte Maïmonide. Nous allons aborder cette semaine la période moderne, qui est marquée par ce que vous appelez la question moderne des juifs, à savoir, pourquoi restons-nous juifs? Quel est le sens de cette question et comment et pourquoi surgit-elle à ce moment-là de l'histoire des juifs, dans cette modernité qui est un terme qu'il faut définir aussi pour commencer et pour comprendre cette question différente d'ailleurs de la question juive des modernes, David Lemler.
Alors cette formule, la question juive des modernes, est reprise du titre d'un ouvrage de Bruno Carsanti qui est paru en 2017 et qui s'interroge sur la permanence de cette question juive dans le projet philosophique et politique de la modernité. Depuis les Lumières, il y a cette question juive qui est une formule qui elle-même questionne, c'est-à-dire en quoi les juifs posent-ils question et à qui ? Et les juifs sont apparus dans le projet de la modernité européenne comme une sorte de test de son succès. Si on arrive à émanciper les juifs, alors c'est que le projet d'émancipation moderne, politique et intellectuelle aura fonctionné, puisque les juifs sont ceux qui sont le plus dans une situation de minorité, à la fois sociale et intellectuelle. Moi, j'envisage une question, je nomme, à partir de cette formule, la question moderne des juifs, l'autre face de la même médaille, qui est que la modernité a posé aux juifs la question de ce qui fait que ils restent juifs, qu'ils veulent rester juifs, ou qu'ils sont condamnés en quelque sorte à rester juifs, malgré précisément leur émancipation, c'est-à-dire leur accès à une égalité de statut par rapport à leurs contemporains au sein de la société européenne. C'est ça la grande différence entre la période dite moderne, ce que j'appelle la modernité avec d'autres, la modernité juive, c'est à partir de ce moment où il y a en tout cas l'existence d'espaces dans lesquels les juifs ne sont pas stigmatisés, identifiés comme étant un statut juridique, politique, à part du reste de la société. Et ça repose à nouveau frais la question de savoir ce qui fait qu'ils sont juifs et qu'ils ne sont pas simplement des citoyens comme les autres, qu'ils ne sont pas simplement des humains comme les autres, selon l'idéal des Lumières, d'un universalisme dans lequel il y a une égalité naturelle entre tous les hommes, qui est indifférente aux différences culturelles, religieuses, etc.
Toute votre réflexion, David Lemler, cherche à montrer que le judaïsme de l'époque moderne est une mutation du judaïsme de la croyance inventée à l'époque médiévale, que nous avons vu la semaine dernière. Vous montrez qu'il y a là un passage du monothéisme juif au judaïsme éthique. C'est le tournant éthique de la philosophie juive moderne au cœur du XIXe siècle. Et de manière étonnante, vous ne commencez pas votre démonstration en convoquant des philosophes, mais par Freud. Pourquoi cette référence, David Lemler ?
Oui, alors effectivement, cette nouvelle manière de définir les juifs, c'est dans ce contexte-là, comme on l'a vu, le contexte de la modernité, que va apparaître le terme même de judaïsme comme étant un terme revendiqué par les juifs eux-mêmes, cette espèce d'abstraction liée à la sphère religieuse dont parle Daniel Boyarin dans son ouvrage « La généalogie d'une notion moderne ». Et je me suis intéressé à Freud, effectivement, ça va pas forcément de soi, parce que Freud n'est pas un penseur qui se définit lui-même comme étant un penseur interne à la tradition juive, mais au contraire un penseur qui se situe un peu de côté par rapport à cette tradition. Mais ce qui m'a intéressé, c'est sa démarche dans son Moïse, C'est-à-dire que Freud, qui fait partie de ces juifs qui, justement, universalisent le judaïsme, la lignée des Paul, des Spinoza, et de lui, qui, partant d'une position juive, vont inventer quelque chose de radicalement universel. Freud écrit un dernier livre dans lequel il fait une sorte de commentaire de la Bible. Et il fait un commentaire, alors, qui m'a intéressé parce que il reflète une certaine idée commune, une idée banale en son temps, de ce que c'est que le judaïsme. Et ce que c'est que le judaïsme, c'est ce qu'on peut appeler un monothéisme éthique, c'est-à-dire une sorte de monothéisme radical, une croyance en un dieu absolument irreprésentable, et qui est associé avec un ensemble de pratiques qui découlent de cette croyance en un dieu absolument abstrait. Et ce qui est très frappant dans la démarche de Freud, c'est qu'il va chercher dans la Bible l'archéologie, donc psychanalytique, d'une religion qui est en fait inventée au XIXe siècle et qui n'existe pas auparavant.
Religion qui consiste dans la maîtrise des pulsions, essentiellement.
Tout à fait. Alors, bon, il y a tout ce mythe du meurtre de Moïse qui va susciter de la culpabilité et qui va imposer une répression des pulsions et qui explique, selon lui et selon des tropes par ailleurs banalement antisémites de son époque, la supériorité intellectuelle des Juifs, leur intérêt pour la sphère intellectuelle, théorique, etc., qui découle de cette répression des pulsions.
Alors, on va revenir un peu plus tard sur cette question du passage du monothéisme juif au monothéisme éthique. Mais avant, j'aimerais m'attarder un petit peu sur une des idées importantes qui fait que le monothéisme juif entre dans la modernité, je vous cite, en opérant un tournant éthique quand les Juifs adoptent l'histoire plutôt que la mémoire comme mode de rapport au passé, selon une formule de Yosef Yerushalmi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est quoi ce passage de la mémoire à l'histoire?
Alors là, je reprends la thèse de Yerushalmi, qui est donc un historien des Juifs d'Espagne à l'époque médiévale, et qui, dans son célèbre livre Zahor, revient sur sa pratique d'historien de juif du judaïsme, partant d'un paradoxe qui est que les Juifs ne se sont pas intéressés à l'histoire jusqu'à l'époque moderne, thèse qu'on peut discuter du point de vue historique, justement, mais qu'à l'époque moderne, il y a un changement du rapport des Juifs avec leur propre passé qui va intégrer l'histoire au sens de l'histoire profane. Avant ça, leur rapport au passé était déterminé par la mémoire, c'est-à-dire la répétition rituelle de une histoire qui se déroule dans le passé, dans un passé mythique, biblique, comme si l'histoire d'Israël s'était arrêtée avec, disons, la destruction du deuxième temple. Et donc là, on a un changement de rapport au passé qui s'opère à l'époque moderne et qui correspond à ce tournant éthique, c'est-à-dire à l'introduction comme une dimension essentielle de ce qui fait que les Juifs sont Juifs, et ben toute la sphère de la pratique, toute la sphère de la réalisation d'une idée, pour parler dans les termes des penseurs juifs modernes, notamment de la science du judaïsme, qui va avoir cette idée que les Juifs sont porteurs d'une idée, l'idéal monothéiste, mais que cette idée se réalise dans une histoire, dans une pratique, dans le temps et dans l'espace.
C'est-à-dire que, d'une certaine manière, c'est peut-être le traumatisme de l'expulsion des Juifs d'Espagne qui implique cette remise en question du rapport au judaïsme, non pas comme rapport à la mémoire lointaine, mais comme un rapport à la mémoire proche, donc historique, qui fait que ce rapport au passé est complètement modifié.
Oui, alors il y a plusieurs moments qui sont qualifiés parfois de entrée des Juifs dans l'histoire, un petit peu comme quand on parle de la naissance du capitalisme, qu'on va faire remonter plus ou moins loin dans l'histoire. C'est une formule qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs. Parfois, on va dire le retour des Juifs dans l'histoire, c'est avec la création de l'État d'Israël. Parfois, on va dire que le retour des Juifs dans l'histoire, c'est l'émancipation. Et parfois, on va dire que c'est déjà l'expulsion d'Espagne. Mais effectivement, il y a cette idée de circonstances qui font qu'un certain mode de rapport, finalement, à soi, entre en crise. Et que le rapport à soi qui passe par la mémoire et les rites de réactualisation de cette mémoire semble ne plus suffire à partir d'un certain moment.
Dans ce moment moderne où les Juifs se pensent dans l'histoire, c'est à Hermann Cohen, au XIXe siècle, que l'on doit essentiellement ce tournant éthique. Hermann Cohen est l'une des figures sur laquelle vous insistez dans votre ouvrage. Qui est Hermann Cohen, ce philosophe considéré par certains comme le philosophe juif le plus important du 19e siècle et dont l'influence se fait sentir jusqu'à aujourd'hui, David Lemler. Et peut-être insister encore sur ce qu'on appelle le judaïsme éthique.
Alors, Hermann Cohen, donc effectivement, c'est l'auteur que j'ai choisi pour décrire de la manière la plus systématique, parce qu'il décrit de la manière la plus systématique un nouveau paradigme de la pensée juive qui est le paradigme du judaïsme éthique. Et il le fait dans un ouvrage important, mais posthume, qui s'appelle « La religion de la raison, tirée des sources du judaïsme », qui est paru en 1918. Hermann Cohen est un philosophe important, néo-kantien, important en son temps, qui a vécu entre 1842 et 1918, justement, et qui est très intéressant parce qu'il est à la fois un grand philosophe, universitaire, historien de la philosophie, commentateur de Kant, donc il est considéré comme un néo-kantien, mais aussi, à partir des dernières années de sa vie, ça c'est assez frappant, c'est vraiment sa dernière carrière, et c'est en fait celle qui a peut-être été la plus influente par la suite, il s'est consacré à une philosophie de la religion, et en particulier à une philosophie du judaïsme, comme le titre de l'ouvrage que j'ai cité tout à l'heure l'indique, « La religion de la raison tirée des sources du judaïsme ». Alors il a une démarche dans ce livre qui consiste à construire un concept de religion de la raison, et à expliquer que le judaïsme contient les sources de cette religion de la raison. Alors, qu'est-ce que c'est que cette religion de la raison ? C'est quelque chose qui découle de la raison elle-même et qui provient d'une insuffisance, justement, paradoxalement, de l'éthique, telle que Kant la comprend, c'est-à-dire la sphère de la morale. L'éthique kantienne est assez connue pour son formalisme et son universalisme. Elle agit toujours de manière à ce que son action puisse ériger en loi universelle, ou à considérer l'humanité de l'autre, non pas seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin. Et donc, dans cette éthique, ce qui manque, d'après Cohen, c'est la reconnaissance de la singularité de l'autre. Et d'après lui, c'est justement le fait de reconnaître l'autre dans sa singularité, de développer ce qu'on pourrait appeler un rapport éthique avec l'autre, avec autrui, non pas en tant que représentant de l'espèce humaine, mais en tant qu'il est lui.
Sujet singulier.
Ça passe par une relation avec Dieu. Il faut qu'il y ait cette médiation avec Dieu. Et en ce sens-là, il est le représentant de ce paradigme dans le monothéisme éthique. C'est le rapport à ce Dieu qui conduit à une relation à l'autre dans sa singularité.
Comme si le Dieu un invitait à penser l'autre comme un et unique aussi.
Alors on entend là la filiation entre Hermann Cohen et puis des penseurs peut-être plus connus, parce que Cohen finalement est un peu tombé dans l'oubli pour plein de raisons, et notamment parce qu'il s'est un peu fourvoyé malgré son socialisme et son humanisme dans une espèce de patriotisme allemand pendant la Première Guerre mondiale, et puis surtout la suite de l'histoire lui a donné tort dans cette espèce de célébration de la symbiose judéo-allemande, mais en même temps il est extrêmement influent. Et il a influencé des auteurs tels que Rosenzweig, Buber, Scholem, enfin, et Lévinas. Influencé au sens où il a formé tous ces gens et que tous ces gens se sont définis par rapport à lui, souvent dans un rapport très conflictuel, c'est une figure paternelle, comme ça, de la pensée juive moderne. Et c'est en ce sens-là, justement, qu'on peut dire qu'il est une figure qui construit un paradigme. Parce que même ceux qui s'opposent à lui vont penser par rapport à lui, justement, dans les termes qu'il a posés, les termes de la définition du judaïsme qu'il a posé.
Ce qui est intéressant aussi à se demander, c'est quelle est la place des commandements par rapport à cette éthique. C'est-à-dire que si le judaïsme devient l'éthique de la relation à l'autre, on peut imaginer que les commandements ne sont plus nécessaires. Et est-ce que il n'y aurait pas là deux écoles par rapport à ces commandements, certains qui disent que les commandements restent nécessaires parce qu'ils sont garants de cette éthique, et des autres qui disent, ben, puisqu'on a compris quel est le projet, qui est le projet éthique, on n'a plus besoin des commandements, David Lemler.
Alors ça, c'est un grand débat interne à la pensée juive moderne. Si on laisse de côté les débats au sein des différents courants du judaïsme moderne, évidemment l'orthodoxie va définir, donner une place centrale à la halakha, au respect des commandements dans la vie juive. Mais si on s'en tient à la philosophie juive, il y a un grand débat entre le Paul Mendelssohn, qui définit le judaïsme non pas comme une religion, mais comme une législation, et qui va insister sur ce point. C'est d'ailleurs ce qui fait que le judaïsme est plus compatible à ses yeux avec la raison naturelle que le christianisme, parce que le judaïsme n'oblige à croire aucune chose qui serait contraire à la raison. Et là, on entend qu'il y a une prise de distance par rapport à ce qui se passe à l'époque médiévale, où on met la croyance, où des auteurs comme Maïmonide mettent la croyance au cœur de la définition du judaïsme. Et puis d'autres auteurs, tels que Cohen ou tels que Léo Beck, qui vont, ils ont allé plutôt du point de vue biographique dans la direction de la réforme, et qui vont faire du judaïsme, ou de la Torah parfois, selon les termes qu'ils utilisent, un noyau de valeurs éthiques universelles. Et les commandements, dans cette perspective, sont simplement ce qui aura permis au futur antérieur à ce que ces valeurs se transmettent à travers l'histoire. Mais se pose alors la question de savoir, une fois qu'on est arrivé dans la modernité, qui est une sorte d'accomplissement de certaines promesses messianiques, est-ce que il faut continuer à garder les commandements?
Et la réponse est...
La réponse qui est apportée par ces auteurs-là, c'est... Alors, il y a une formule qui est très intéressante de Léo Beck.
Rabbin réformé.
Donc, rabbin réformé, qui est inscrit dans une ligne proche, disons, de celle de Hermann Cohen, et qui a écrit un livre qui s'intitule « L'essence du judaïsme », où il fait une sorte d'apologie d'un judaïsme, justement, éthique, un porteur de valeurs éthiques universelles. Sa réponse à lui est intéressante parce qu'il parle de nostalgie, que le rapport à la loi devrait être de l'ordre de la gratitude. Il faut avoir une gratitude par rapport à ces commandements qui auront permis de conserver jusqu'à aujourd'hui ce noyau universel. Et donc c'est à ce titre-là qu'il faut continuer à les respecter, mais pas parce qu'ils auraient une valeur intrinsèque.
Nous sommes en train d'entendre une chanson à récapitulation, chantée traditionnellement le soir du Seder de Pessah. Il s'agit du Chag Gadya dans une version de Chava Alberstein, reprenant une mélodie d'Angelo Branduardi, et chantée ici en hébreu, araméen et arabe, par l'ensemble Rana, qui réunit 20 femmes, juives, chrétiennes et musulmanes de Jaffa. Pourquoi ce choix, David Lemler? En l'écoutant, je pensais au chapitre de la religion de la raison que vous avez cité d'Hermann Cohen, qui se termine par un chapitre sur la paix, et je me demandais comment le monothéisme éthique des philosophes du tournant éthique que nous avons évoqué peuvent nous aider à nous rapprocher de cette paix, David Lemler.
Alors, ce qui est assez clair, c'est que le monothéisme en tant que doctrine religieuse peut porter une certaine violence à partir du moment où il devient une revendication d'une possession exclusive, d'une vérité qu'il faudrait imposer aux autres. Donc, le monothéisme en tant que tel n'est pas porteur de paix. Le monothéisme éthique est peut-être une source pour essayer de décharger le conflit israélo-arabe de sa dimension religieuse en tant qu'elle est explosive. Mais pour ça, il faut être... Alors, je pense que ce serait illusoire de vouloir complètement dissocier ce conflit de sa dimension religieuse. Alors, ça fait partie de la difficulté de ce conflit qu'il est souvent confondu avec une guerre de religion, alors qu'il y a des facteurs, évidemment, politiques, géopolitiques, qui sont en jeu dedans. Mais il y a une charge religieuse qui est incontestable, parce qu'on parle de cet espace, de ce territoire, de Jérusalem, qui fait que la religion, le lexique religieux, est évidemment présent dans les discours, dans les motivations des différentes politiques. Et je crois que l'enjeu de l'époque, c'est d'arriver à porter d'autres manières de lire les sources religieuses. Alors peut-être que le monothéisme éthique de ces auteurs qui écrivent il y a longtemps déjà, qui écrivent avant la Shoah, peuvent nourrir une réflexion sur cette lecture alternative qui devient aujourd'hui nécessaire. Alors si on repart de Cohen, on peut dire que chez lui, il y a une sorte de tension intéressante entre ce qu'on peut appeler un impérialisme de la raison universelle, malgré tout, avec une part de violence qui est d'ailleurs énoncée dans son texte, lorsqu'il parle de détruire l'idolâtrie, par exemple, et d'un autre côté, la reconnaissance de la singularité dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est ce deuxième pan de son monothéisme éthique qui peut nourrir des espoirs de paix aujourd'hui.
J'ai l'impression, en ayant écouté cette chanson à récapitulation, et il faut expliquer qu'est-ce que c'est qu'une chanson à récapitulation, qu'elle fait signe aussi sur la démarche de votre écriture et la manière dont vous avancez dans votre ouvrage, à l'instar de la minorité réfléchissante, expression clé dont nous avons déjà parlé la semaine dernière, David Lemler.
Un chant à récapitulation ou un chant cumulatif, c'est un chant qui consiste à ajouter à chaque strophe un nouvel élément, mais en répétant le précédent. On a écouté une version de ce célèbre chant cumulatif de Pessard, qui est Rat Gadia, un agneau. Et puis ensuite, cet agneau va être dévoré par un chat, ce qui est bizarre. Et puis ensuite, le chat va être mordu par un chien. Et puis le chien va être frappé par un bâton qui sera brûlé. Et à chaque strophe, on va répéter la précédente. Et puis le chant se termine par l'ange de la mort qui tue
le boucher. Qui a égorgé le bœuf, l'eau, etc.
Et l'ange de la mort lui-même sera terrassé par Dieu. Et donc, ce qui apparaît dans le fonctionnement même du chant cumulatif, c'est d'abord le procédé de cumulation, d'ajout de nouvelles strates à un texte, mais qui n'efface pas la précédente. C'est-à-dire souvent, dans le flux du langage, la phrase qui vient d'être prononcée efface la précédente et le dernier qui a parlé a raison. Mais là, il y a justement cette idée d'une conservation de ce qui précède et d'une récapitulation, d'une recompréhension de ce qui précède à partir de ce qui suit. Et aussi l'idée qu'il y aurait une sorte de fin qui viendrait livrer le sens ultime de toute l'histoire depuis le départ, qui fait qu'on peut comprendre traditionnellement cette histoire d'agneau comme étant une allégorie d'Israël dans l'histoire. Alors ici, ce qui est très intéressant dans la version qu'on a écoutée, c'est qu'il s'agit d'une réécriture moderne, contemporaine, où d'ailleurs on peut remarquer que Dieu a disparu de l'histoire, mais une réécriture qui véhicule un tout autre message, un nouveau message à ce chant, puisqu'il est chanté par des femmes de différentes langues, de différentes cultures, et des langues qui d'ailleurs sont des langues fondamentales de la tradition juive, l'hébreu, l'araméen et l'arabe, dont il faut rappeler que c'est une langue fondamentale de la tradition. Et donc là, on a une sorte de mise en acte contemporaine, finalement, qui fait évidemment un pas de côté par rapport à la tradition, mais une mise en acte d'un fonctionnement de la tradition juive elle-même qui fonctionne de cette manière-là. On a pu voir la semaine dernière des exemples de réécriture, comment, en quelque sorte, Maïmonide a réécrit à partir de sa propre compréhension la Torah. Lorsqu'il y a écrit main dans la Torah, ben, en fait, il faut lire puissance. C'est ce que j'appelle une réécriture.
Mais par rapport à votre démarche ?
Alors par rapport à ma démarche elle-même, on pourrait dire que c'est une sorte de réflexion, de réflexivité au carré. Parce que donc, je fais une histoire principalement de la réflexivité juive, donc de la manière dont les juifs ont constamment pensé ce qui fait qu'ils sont juifs. Et j'essaie de montrer par quel mécanisme justement il y a cette réécriture qui se fait à différents moments. particulier l'époque médiévale, l'époque moderne. Et moi, j'en écris l'histoire, donc je réfléchis sur le sens même de cette réflexivité, et j'essaye d'une certaine façon de la récapituler, mais sans prétendre à aucun moment donner le dernier mot.
C'est ça. Alors, mais cette manière de progresser en récapitulant donne naissance à des paradigmes. Je vous cite, vous écrivez « Lorsque l'opération réfléchissante fonctionne, cela produit un paradigme. Je mets paradigme entre guillemets. Pouvez-vous nous expliquer quel sens donnez-vous à ce mot de paradigme en nous donnant un exemple parmi les différents points que nous avons abordés jusqu'à présent ?» David Lemler.
Alors, un paradigme, c'est un modèle à partir duquel on va penser quelque chose. C'est un modèle qui est partagé par un certain nombre de gens qui participent au même champ discursif, qui discutent du même objet et qui finalement s'accordent sur les termes mêmes du problème et la manière de désigner l'objet en question. Alors, j'utilise ce terme pour désigner comment des manières d'inventer ou de réinventer le judaïsme produisent cette espèce de consensus implicite sur comment on en parle. Et un des symptômes du succès d'un paradigme ou de la constitution d'un paradigme, c'est que ceux qui s'opposent, ceux qui refusent les termes du problème, finalement, sont incapables d'en parler autrement que dans ces termes mêmes. Alors si on prend le cas du moment médiéval, je parle d'un paradigme de la croyance, ben on a des exemples assez frappants. Par exemple, Yehuda Halevi, qui est très connu pour... Donc c'est un philosophe poète andalou du XIIe siècle, qui est très connu pour son opposition à la philosophie, à l'intellectualisme juif qui se développe en son temps et dont Maïmonide sera, quelques décennies plus tard, le représentant majeur. Yehuda Halevi, dans son fameux Kuzari, où il défend des thèses problématique, une espèce de supériorité ontologique des juifs vis-à-vis de toutes les autres nations, thèse qui a des répercussions dans une certaine tradition de pensée jusqu'à aujourd'hui. Halevi, pourtant, dans le Kuzari, est incapable de penser ultimement l'identité d'Israël, indépendamment de la catégorie de croyance, qui va ressurgir à certains endroits stratégiques de son texte, dont je parle en détail dans le livre. Notre exemple de paradigme, c'est celui du judaïsme comme religion éthique, dont on a parlé tout à l'heure. Et un symptôme du succès de ce paradigme, c'est la phrase qui est récurrente dans la modernité, « Le judaïsme n'est pas une religion ». Le judaïsme n'est pas une religion, c'est une phrase qu'on peut trouver chez des penseurs sionistes, tels que Moses Hess, par exemple, ou chez des penseurs orthodoxes, tels que Samson Raphaël Hirsch, et qu'on va retrouver chez des gens comme Lévinas. Et c'est très intéressant de se demander pourquoi cette récurrence de la question. On va identifier d'un côté le judaïsme à une identité politique, puis d'un autre côté à une, comme dit Lévinas, une compréhension de l'être. Religion, c'est trop réducteur d'après lui. Bah, devoir dire n'est pas une religion, c'est bien la preuve qu'on ne peut pas le penser indépendamment de cette catégorie-là.
Il y a la manière de penser, on a dit aussi la manière d'exister, que vous avez appelée la facticité du peuple juif comme minorité réfléchissante, se traduit aussi par le fait que l'identité du juif est toujours même et autre, c'est le grand thème de votre ouvrage, jamais un fait définitif et dès lors insaisissable, ce qui m'amène à vous demander de commenter la dernière et ultime phrase de votre livre, je cite « Tel est peut-être un trait singulier du collectif » qui a pour nom Israël, considérer ce que l'on est pour un objet de pensée toujours relancé, redéfinir ce collectif en niant sa capacité à se redéfinir et en l'enfermant dans des catégories identitaires figées et la matrice de toute violence faite au nom d'Israël. La fin de la phrase semble riche d'ambiguïté, David Lemler.
Alors merci de relever cette phrase, effectivement délibérément équivoque. Elle parle d'antisémitisme, mais aussi et surtout du défi de notre temps dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire lutter contre des redéfinitions contemporaines du nom d'Israël qui sont dangereuses et dévastatrices. Alors, enfermer les Juifs dans une essence, une responsabilité collective dans la mort du Christ, par exemple, qui se transmettrait de génération en génération, selon le récit traditionnel d'avant Vatican II de l'antijudaïsme chrétien, ou dans une race, à la façon de l'antisémitisme moderne, c'est refuser aux Juifs la possibilité de se redéfinir. C'est une violence faite au nom d'Israël. Et l'antisémitisme contemporain, dont on a eu des illustrations encore terribles avec l'attentat de Sydney il y a quelques semaines, est inscrit dans cette même histoire d'enfermer les Juifs dans une espèce d'essence. Ils seraient tous les mêmes, ils penseraient tous pareil, ils seraient tous complices des mêmes actions, etc. Mais il y a aussi des manières juives de redéfinir le nom Israël qui mettent en péril la capacité de ce nom à se renouveler. Et il y a une manière de définir Israël comme une identité figée et immuable. Et si on donne le pouvoir au tenant d'une telle conception d'Israël, on obtient la violence terrible à laquelle nous avons assisté depuis le massacre du 7 octobre et la riposte qui en a suivi à Gaza. C'est en ce sens qu'une violence exercée au nom d'Israël est aussi une violence exercée sur ce nom. Et mon idée, c'est que le défi du temps, c'est de précisément continuer, et aujourd'hui plus que jamais, à réinventer ce nom.
Merci David Lemler pour ces deux semaines de passionnantes et riches conversations. Je rappelle le titre de votre livre, « L'invention du judaïsme », sous-titré « Comment les Juifs se définissent eux-mêmes ». C'est aux éditions Albin Michel, un livre inspiré et très inspirant. Merci encore David Lemler.
Merci Marc-Alain Wachnin.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Alexandre Dang, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Toute l'équipe de Talmudique se joint à moi pour souhaiter à toutes les auditrices et les auditeurs une excellente nouvelle année 2026. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.